Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. On peut s'asseoir. Quand nous nous trouvons un petit peu proches de très grands témoins du Christ, nous pouvons éprouver un sentiment, celui d'être tellement, tellement loin de leur authenticité, tellement, tellement loin de leur joie, tellement, tellement loin de leur générosité, que nous hésitons à parler ou à dire quoi que ce soit. Pourtant, si vraiment la sainteté, c'est celle de l'Église, c'est-à-dire notre sainteté, nous devons aborder les saints et les saintes comme des amis, des entraîneurs de joie. Sainte Marguerite Marie est une entraîneuse de sainteté. Et loin de nous décourager sur le chemin de l'existence humaine, elle est pour nous une véritable sœur qui donne confiance, une grande sœur. Les saints et les saintes ne sont pas seulement des coachs. Ils sont des amoureux de notre vie. Ils nous aiment en Dieu. Et d'une certaine façon, les écouter, les suivre, c'est recevoir mieux notre vocation. En ce sens, ils sont prophètes. Ils nous montrent ce qui est déjà en germe en nous. À leur contact, nous sommes évidemment poussés hors des sentiers battus. Nous sommes comme pressés intérieurement de changer vraiment de vie, de devenir, comme dit l'Évangile, semblables aux petits-enfants qui ont un cœur simple. Et quand l'Église nous donne en exemple Sainte Marguerite Marie et les autres saints, nous devons, je crois, nous appuyer davantage sur eux en toute simplicité. Un petit peu comme quand on marche à la suite d'un guide en montagne. On n'a pas peur de mettre nos pas dans ses pas. Et surtout quand le chemin est escarpé ou qu'il y a des crevasses, on met même nos pas dans les pas qu'il a déjà tracés avant nous. Et aussi nous pouvons vraiment nous couler dans leurs prières, unir notre voix à leur chant. Bref, en nous approchant un peu de ces hommes, de ces femmes imbibés jusqu'au bout par la grâce de Dieu, nous retrouvons le goût de vivre. Voilà. La sainteté n'est pas pour quelques-uns, elle est pour l'humanité entière. Et qu'est-ce que la sainteté sinon la vraie vie, véritable amour? Et donc, en ouvrant aujourd'hui avec mes frères et vous, mes sœurs, cette année jubilaire, comme je voudrais que nous puissions retrouver le véritable goût de vivre et d'aimer. Approcher quelqu'un de vivant, c'est évidemment entrer d'abord dans un silence intérieur. On ne recevra jamais rien de quelqu'un si nous pensons que nous savons tout de lui, bien sûr. Et donc, approcher un peu des écrits, de la vie de Sainte Marguerite Marie, c'est retirer un certain nombre de cadres intérieurs, des grilles d'analyse, des lunettes, je ne sais pas comment il faut dire. Et d'abord, reconnaître aussi que cette sainte n'est pas la plus facile d'accès. Pardon mes sœurs. Oui. Même je crois que le père Benoît m'avait dit un jour que pour lui aussi, en arrivant à Paray-le-Monial, au départ il disait, mais enfin bon, not evident, non pas Paray-le-Monial, mais Sainte Marguerite Marie. Il s'agit d'accueillir de l'étrangeté, accueillir du surprenant, de la différence. Et bien sûr, reconnaître que notre connaissance est infiniment partielle. Alors, qui plus est, pour Marguerite Marie, c'est une femme du XVIIe siècle, qui est une authentique mystique. Voilà déjà deux choses qui nous la rendent évidemment un peu étrange. Car jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre nous ne vit au XVIIe siècle et personne n'a des visions comme ça et des apparitions aussi fréquentes, car elle n'en a pas eu que trois grandes, mais toute une série. Voilà. Son enfouissement dans un monastère, fut-il celui de Paray-le-Monial, et puis le fait ensuite d'avoir voulu et par obéissance que cette formidable révélation approfondie du mystère du cœur du Christ soit connue dans le monde entier, là aussi c'est une troisième chose qui nous paraît étrange. Que signifie de vouloir vraiment et authentiquement un enfouissement dans le Christ en Dieu, vouloir vivre caché aux yeux du monde et vouloir qu'un message soit connu dans le monde entier? Mais précisément c'est parce que c'est pas le sien. Ou plutôt, c'est celui que Dieu a voulu imprimer en elle. Alors cette femme, on le sait, a été canonisée par Benoît XV il y a bientôt 100 ans, le 13 mai 1920. Et c'est pourquoi l'année prochaine sera l'année du centenaire, mais il a été décidé de commencer cette année jubilaire au jour de sa fête, c'est-à-dire aujourd'hui. 16 octobre, et elle se clôturera le 16 octobre 2020. Est-ce qu'on entend bien? Ça va? Parfait. Bon. Je voudrais dire un mot sur la vocation de Sainte Marguerite Marie. Je parle ici de sa vocation à la vie consacrée. Elle l'a reçue très tôt, mais il lui a fallu de nombreuses années finalement pour être capable d'en rendre raison aux autres, d'en parler, et du même coup de faire en sorte que cette vocation se traduise en acte. Je parle de la vocation à la vie consacrée. Elle n'en parlera vraiment qu'à l'âge de 20 ans. Ce qui, à l'époque, était déjà un âge, d'une certaine manière, avancé. Et après en avoir parlé à l'âge de 20 ans, il lui faudra encore 4 ans, 4 ans c'est long, avant de se fixer sur le lieu où elle va vivre cette vocation, à savoir ce monastère ici, qui je crois s'appelait monastère Sainte-Marie. Voilà, Sainte-Marie. Et pour elle, il y avait une petite consonance, puisque le jour de sa confirmation, à l'âge adulte, elle avait choisi d'ajouter à son prénom de baptême le nom de Marie. Mais il y avait aussi une raison, c'est que elle voulait être parfaitement libre. Je pense qu'un des traits de Marguerite Marie, c'est un trait prophétique pour nous, vraiment aujourd'hui, si nous éprouvons quelque chose de signe de la vie chrétienne, c'est la liberté. Voilà. On n'est pas conditionné, quoi. Voilà. On est conditionné si on veut, mais nous demeurons libres. Et Marguerite Marie, d'abord, a dû, j'en reparlerai un peu plus loin, affirmer intérieurement et extérieurement sa liberté par rapport à sa famille. Mais quand sa famille a été obligée d'accueillir quand même qu'elle ne se marierait pas, voilà, qu'elle n'irait pas dans les parties qui avaient été proposées par les siens, on lui a conseillé d'aller chez les Clarisses, hein, parce que d'abord elle y avait été enfant, pour être éduquée un moment, et puis parce qu'on les connaissait. Mais elle est venue ici justement parce qu'elle ne connaissait personne. Et il n'y avait même pas de connaissance de sa famille, pour être bien certaine de ne pas y rechercher quelqu'un d'autre que Dieu seul. Voilà évidemment le trait d'une personnalité très, à la fois très sensible, très, très délicate et en même temps extrêmement libre, ou plutôt qui a peu à peu acquis une véritable liberté intérieure. Le prophète n'est pas quelqu'un qui s'emballe sur un coup de tête. Il n'est pas quelqu'un d'instable, qui court après la première idée venue, et puis demain ce sera une autre idée. Comme chacun de nous, Marguerite Marie s'est interrogée, pourquoi je vais ici? Pourquoi je viens vivre jusqu'à ma mort ici? Pourquoi je choisis tel lieu pour y demeurer? Et alors il y a toujours, pour quelqu'un qui cherche authentiquement Dieu par-dessus tout, il y a des indications de la grâce. Et pour Marguerite Marie, alors qu'il y avait certainement, il y a eu des hésitations, il y a eu au moment où il est entré ici, le père Benoît le dira, je pense, dans une des conférences, sa deuxième conférence où il parlera du noviciat de Marguerite Marie dans quelques jours, il y a eu une sorte d'indication, c'est bien là que tu es attendu. Le Seigneur lui disant, oui, c'est là que je te veux. Alors ça, c'est évidemment traduit dans des mots humains, ce qu'elle a éprouvé comme une réalité presque indicible. Quand Dieu parle au cœur, nous pouvons le redire avec des mots, mais ce ne sont jamais que des mots humains. Par contre, la marque certaine d'une indication divine, celle-là, elle est plus forte que les mots humains. Qui que nous soyons, lorsque nous cherchons vraiment à opérer des changements dans notre vie, quand nous cherchons à vivre finalement la renonciation au mal et l'engagement dans la foi, nous recevons toujours, même de nuit, des indications de la part de Dieu. Oui, l'Esprit Saint nous fait toujours voir le bon chemin. Il nous donne l'assurance quand nous avons pris les moyens de discerner. Je te suivrai, Seigneur, montre-moi le chemin. Quand Dieu vient chercher quelqu'un pour l'introduire dans les réalités de son alliance, et ici c'est très important, il ne supprime rien de l'humain. Il ne supprime rien de notre humanité. Et notre humanité, elle est évidemment une humanité qui n'est pas transparente, ce n'est pas une glace, ce n'est pas une vitre. C'est une histoire. C'est d'abord une histoire sexuée. C'est une histoire marquée par la culture, par un père, par une mère, par des frères, par des sœurs, par des tantes, par des oncles, par des grands-parents. Et pour Marguerite Marie, cette humanité qui est saisie par le Christ est une humanité qui n'est pas du tout angélique. C'est une humanité de chair et de sang. Je donne ici quelques éléments très simples, mais je vous disais, elle avait une nature humaine délicate, peut-être même un peu scrupuleuse, en tout cas attentive à ne pas se tromper, et qui a été fortement éprouvée. Eh bien écoutez, adolescence, 4 ans cloués au lit. Voilà, ben oui, ça donne évidemment 4 ans cloués au lit pendant l'adolescence. À l'âge où normalement on a envie de déployer son corps, son esprit. Et alors en plus, c'est une fille de la campagne, elle est née à Vérove, comme vous savez, juste à côté d'ici. Et pas envie de rester clouée au lit en pleine adolescence. Voilà. Et puis quand elle est guérie, eh bien il faut qu'elle soigne sa maman. Alors son père est mort. À quel âge elle avait 5 ans, c'est ça? 8 ans. Elle avait 8 ans quand son papa meurt. Ça aussi, c'est quand même une épreuve. Et puis ensuite, elle va donc avoir à vaincre une forme de répugnance qu'on peut très bien comprendre, alors qu'elle n'est pas infirmière. Eh bien, elle va soigner les plaies corporelles de sa maman pendant plusieurs années, je crois 2-3 ans. Les sœurs ne disent rien, ça doit être exact. Non, moins que ça. Bon, en tout cas, elle a soigné un certain temps les plaies corporelles de sa maman, alors que la maladie de sa maman passait pour une maladie incurable. On disait, c'est même pas la peine de s'en occuper. Voilà. Et puis ensuite, comme je vous le disais, il a fallu qu'elle affirme sa liberté au moment où on a pensé évidemment qu'elle ferait un bon parti et se marierait. Il fallait tenir bon pour dire non. L'appel avait retenti dans son enfance à se donner complètement dans une consécration de toute sa vie. Elle dira plus tard qu'à l'époque, elle ne pouvait pas complètement comprendre ce que voulait dire ce don. D'une certaine façon, qui peut dire qu'on comprend tout à fait jusqu'au bout le don de nous-mêmes. Bon. Quand Dieu vient chercher quelqu'un pour l'introduire dans son alliance, c'est dans le tissu humain concret qu'il vient travailler, comme un peintre qui peint sur une toile réelle, pas sur un écran internet, qui peint sur de la toile avec de la vraie matière. C'est l'image que sa maîtresse des novices plus tard lui donnera pour l'aider à prier. Alors, la prière de Marguerite Marie, on peut en dire un mot. Je suis en train de mélanger toutes mes notes, mais ça n'a pas d'importance après tout. Sa prière qui est si importante, elle aurait certainement aimé avoir pendant sa jeunesse, son enfance, son adolescence, des personnes pour la conseiller, pour lui donner des repères, pour être, comme on dit aujourd'hui, son accompagnateur spirituel ou son accompagnatrice spirituelle. Personne, non, elle n'avait pas cela. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été aidée. Elle a été aidée par les Clarisses, son entourage. Mais alors qu'elle a eu un très fort attrait pour la prière très jeune, elle n'a pas eu de guide spirituel. Et donc elle est entrée ici au monastère de la Visitation avec déjà toute une formation intérieure, j'ose dire, qui était directement celle du Saint-Esprit. C'est le fait de la plupart des gens sur la terre, vous savez. C'est pas original, ça. Les gens qui ont des accompagnateurs et des accompagnatrices sont des gens ultra privilégiés. Il n'y en a quand même pas beaucoup, sur les milliards. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille les consciences sans accompagnement spirituel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, l'accompagnement spirituel. Mais ce qui est très beau chez Marguerite Marie, me semble-t-il, parce que vraiment, ici, il y en a beaucoup qui connaissent bien mieux que moi ses écrits, sa vie, sa mission, c'est que les conseils qu'elle a trouvés ici au monastère, avec une nature généreuse qui était la sienne, elle y a adhéré. J'ose dire, mes sœurs, mais je parle un petit peu sous votre contrôle, Marguerite Marie n'est pas une va-t-en-guerre. C'est pas une révolutionnaire. C'est pas quelqu'un qui a dit, moi, je veux casser la baraque pour réformer l'Église. Je crois pas. C'est plutôt quelqu'un de docile, si vous voulez, au sens positif du mot. Et donc, les conseils qui lui ont été donnés, il y aurait beaucoup à dire sur le fait que peut-être aussi, voilà, à un moment, ça a pu être aussi source d'inquiétude pour elle. Bon, enfin, mais elle les a pris comme des bons conseils. Et ce conseil de se trouver devant le Saint-Sacrement comme devant un peintre qui peint une toile, c'est vraiment quelque chose de concret. Quel est le fil rouge, on pourrait dire, de sa vie? Encore une fois, sa vie n'est pas immédiatement une vie entièrement libérée dans le Christ. C'est l'éclosion progressive d'une liberté adulte, un approfondissement de confiance qui permet de se déterminer sans contrainte. Alors Marguerite Marie découvre la trame de sa vie qui ne se trouve que dans l'amour de Dieu, Cette trame, elle est de trois couleurs, si vous voulez. Je le dis ici simplement. Première couleur, la souffrance peut nous apprendre la patience. C'est impossible d'aborder une vie sérieuse si à un moment ou un autre, on ne dit pas que dans le Christ, la souffrance, qui n'est jamais un bien en soi, évidemment, peut apprendre la patience. On ose dire ça pour Marguerite Marie, qui a quand même beaucoup souffert aussi. Deuxième couleur de cette trame de sa vie, c'est l'amour qui pousse à être généreux. Sans amour, il n'y a pas de générosité possible. Ou alors une générosité de façade qui fait illusion, mais qui est au fond une vanité. La véritable générosité de tous les instants, persévérante, est toujours liée à un amour pleinement accueilli. Et la troisième trame, la troisième couleur de sa trame de vie, il me semble que ça pourrait être dit de cette manière-là, l'amour est vainqueur aussi en nous de certaines peurs. Je passe à un second point de cette petite conférence. Marguerite Marie est pionnière. Elle est prophète de notre vraie vocation. Et deuxième point, elle est une pionnière courageuse et patiente. Elle aurait eu bien des raisons d'abdiquer dans sa recherche de Dieu, tant elle a été soumise à des pressions et à des épreuves. Sa persévérance dans la foi, sa façon de toujours ressaisir les choses à partir de l'amour et d'obéir à ce qui lui était demandé légitimement par ses supérieurs, ces choses-là venaient d'une force intérieure qu'elle recevait, et je ne dis pas simplement au jour de calme, mais au milieu des épreuves, des luttes aussi, des luttes intérieures et extérieures. Il en a fallu de la force pour surmonter la pression de sa famille et de son entourage. Ici, j'aborde un autre point plus intérieur. Elle a dû lutter contre elle-même pour ne pas se laisser envahir par la culpabilité. Alors, quelle culpabilité ? Eh bien, figurez-vous qu'on a voulu lui faire ressentir qu'elle était coupable de quitter sa famille. Enfin, quoi, tu t'es occupé de ta maman, tu fais très bien, on a besoin de toi. Et ta vieille maman n'aura personne d'autre si tu n'es pas là pour s'occuper d'elle. Oui. Donc, il y en a fallu une force, un courage intérieur pour ne pas se laisser envahir plus qu'il ne faut par une culpabilité mauvaise qu'on cherchait à lui faire ressentir. Et sa mère elle-même a dû contribuer un moment aussi à la mettre sur cette pente d'une possible culpabilité. Quel courage aussi pour prendre sur elle de soigner des plaies répugnantes, et plus tard aussi au monastère de prendre sur elle un certain nombre de résolutions contre sa nature, disons, qui pour nous aujourd'hui paraîtrait une nature extrêmement forte, mais qui pour l'époque n'était pas du tout une nature qui était plus forte que les autres, plutôt même plus délicate à certains endroits. J'aborde aussi toujours dans ce courage d'une pionnière, courage de... Là, je baisse la voix parce qu'il faut bien entendre. Il faut bien entendre. Après la mort de son papa, la maman, qui n'était pas capable de gérer tout le domaine, au fond, a dû se mettre sous la régence de plusieurs membres de la famille, qui étaient donc des tantes, la plupart étaient des tantes de Marguerite Marie. Et la maison est devenue une maison qui a été tenue par, on pourrait dire, des femmes qui ont eu une emprise très excessive, disons des femmes tyrans. Et alors, C'est particulièrement actuel aujourd'hui, entre parenthèses. Or, adolescente, grande adolescente, cette Marguerite, qui ne porte pas encore le nom de Marie, puisqu'elle le mettra plus tard à côté de son nom de baptême au jour de sa confirmation à l'âge adulte, elle est brimée, si vous voulez, et sa maman aussi est brimée. Pour ne pas dire plus, enfin, il n'y avait pas de détails à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait, en tout cas, on n'était vraiment pas du tout dans une ambiance, disons, de la maison de Nazareth, hein, chez Joseph et Marie. C'était assez différent. On ose à peine redire ce qu'elle entendait dans sa conscience. Une conscience tellement pure qu'il faut cette pureté-là pour ne pas suspecter ce que je vais dire, ce que je vais redire. Figurez-vous que ces personnes ennemies, vraiment ennemies, Marguerite entend le Saint-Esprit lui dire « Tu peux les aimer comme les véritables amis de ton âme. » Les psychologues tout de suite crieraient « Danger !» C'est vrai qu'il y a du danger là, n'ayons pas peur. Il faut bien entendre ces choses-là. Vous savez, quand on est sur des sommets, si on est juste à côté, on tombe de très haut. Enfin, si on est sur le chemin de crête, c'est quand même pas désagréable. Voilà. Je répète, ces personnes, et en plus de la proche famille, qui se sont comportées vraiment de manière indigne, qui ont brimé fortement cette famille et la petite Marguerite, voilà que le Seigneur se fait entendre et dit à Marguerite Marie, ce qu'elle répétera plus tard, elles étaient les véritables amies de mon âme. Comme si le Seigneur permettait que soit travaillée en nous la liberté à l'endroit où normalement, c'est plutôt l'injustice qui est là. Je sais bien, on est sur une corde raide. Il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de victimisation, et surtout pas de masochisme. Et on n'est pas du tout là-dedans chez Marguerite Marie. Mais puisqu'on est devant une sainte à une conscience tellement pure, on ne peut pas cacher ces choses-là qui, entre parenthèses, rejoignent quelque chose qui est vraiment dans l'Évangile. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au fond, Paul a été choisi ensuite par le Christ parmi les plus grands ennemis de l'Église. Une visitandine de chez vous, mais qui était passée chez vous, mes sœurs, m'a dit un jour que Marguerite Marie mériterait d'être appelée la patronne céleste des adolescents, en particulier des adolescents affrontés aux disputes entre les adultes, au lieu que les adultes devraient être le soutien des adolescents. Voilà que ils se disputent, ils montrent ce qu'ils ne devraient pas montrer, à savoir le mal. Et du coup, Marguerite Marie, au milieu d'une ambiance aussi qui a connu ces choses-là, pourrait être appelée la patronne céleste des adolescents, pas seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'elle a été victime elle-même de crises d'anorexie, d'isolement douloureux et peut-être d'introspection excessive et scrupuleuse. Citation d'une visitandine qui m'a dit ça il y a quelques mois ici dans ce monastère. Je n'aurais pas osé écrire ces choses-là si ça ne venait pas d'une visitandine. Elle a donc appris dans tout cela à ne pas s'appuyer sur ses propres forces, ni même, plus qu'il ne faut, sur celles des autres. Elle a appris à s'appuyer sur la force que Dieu donne, son souffle, qui fait traverser les épreuves, qui pousse à aimer et à espérer, même quand tout semble aller de travers. Bref, Sainte Marguerite Marie était une femme normale, humaine, avec ses faiblesses, et elle a su les accepter, les intégrer dans son chemin de vie. Elle a su ne pas se présenter dans son dialogue avec le Seigneur comme l'ombre d'elle-même, mais elle-même tout entière, avec aussi ses fragilités. Fragilité aussi dans ses relations quotidiennes avec ses sœurs ou ceux qu'elle côtoyait. Sa fine sensibilité féminine, lui fait alors trouver des expressions de tendresse et d'authentique amour envers le Christ qui lui a tant montré le sien. Paul dit « Le Christ m'a aimé ». Vraiment, si une sainte peut répéter ces mots de Paul, c'est bien Marguerite Marie. En fait, le Christ n'a pas seulement montré la profondeur de son cœur blessé, il a uni le cœur de Marguerite Marie au sien. Il a plongé le cœur de cette sœur, de notre sœur, dans son cœur de charité universelle. J'aime bien rapprocher cette prière liturgique pour demander l'amour. Fais Seigneur que nos pensées ne soient plus les nôtres, mais qu'elles deviennent tes pensées à toi. Comme si nos pensées devaient se fondre pour être transformées dans les pensées de Dieu. Alors nous aurons pour nos frères et pour toi un unique amour. Voilà l'aspiration finalement profonde. Je vais vous parler tout à l'heure un petit peu de sa vie de prière, j'y reviens un moment. Plus tard, quand elle sera accompagnée, guidée dans la vie de prière, par des médiateurs, y compris bien sûr par le grand Claude de la Colombière, elle dira que dans son enfance, elle avait été préparée, elle avait été conduite par Dieu, qui la faisait entrer dans les contemplations, non pas comme sa contemplation, mais de l'humanité de son Fils. Il se présentait à moi dans le mystère où il voulait que je la considérasse. Il rendait attentif si fort mon esprit, en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même, que je ne sentais pas de distraction. Mais mon cœur se sentait consumé du désir de l'aimer. Mon cœur se sentait consumé du désir de l'aimer. De cette manière-là qu'elle retraduira beaucoup plus tard son expérience de la prière, déjà dans son enfance. C'est bien le propre d'un esprit pionnier que d'aller de l'avant, sans regarder en arrière, sur des chemins qui n'avaient pas été prévus, sur des chemins qu'il faut défricher. Ce qui permet à Marguerite Marie d'avancer, c'est une confiance absolue en Dieu, une confiance en même temps qui se laisse, enfin plutôt qui accepte d'être exposée aussi devant un accompagnateur ou ses supérieurs dans le monastère pour être sûr de ne pas se faire illusion. Loin de brider la générosité de notre cœur de baptisé, le dialogue sincère avec un frère ou une sœur aînée qualifiée fait éviter bien des pièges, et en particulier l'illusion. Ce dialogue aide aussi à briser certains enfermements scrupuleux et peut-être aussi à dissiper certaines peurs. Il s'agit, disait Marguerite Marie à une novice, de regarder sa misère dans la grande miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Nous pouvons nous interroger où se trouve véritablement mon cœur, où se trouve mon centre vital, quel est le moteur de mes actes, de mes pensées, quelle est la motivation profonde de ce que je vis et de ce que je veux vivre. Qui dissipera certains troubles ? Qui libérera en nous la joie, qui brisera l'orgueil toujours sournois et caché qui empêche l'humilité du Christ d'agir dans mes relations avec les autres. Oui, le feu qui à l'évidence et la flamme qui fait vibrer la volonté, l'intelligence, la mémoire de Marguerite Marie, et ce même feu qui nous atteint, qui peut nous atteindre aujourd'hui. Marguerite Marie a son centre dans un autre. Elle nous presse d'aimer, de nous laisser nous-mêmes toucher par le cœur de Jésus vivant, c'est-à-dire le cœur de Dieu dans un cœur entièrement humain. Comme est beau le simple exemple de vie de cette fille de notre terre bourguignonne, toute écoutante amoureuse. Elle n'est pas simplement écoutante, elle est écoutante amoureuse de Dieu et de son projet bienveillant. Elle est accueillante aussi de cette participation toute personnelle que Dieu permet qu'elle ait au mystère de la croix de son Fils. Je dirais que Marguerite Marie nous apprend à quitter aussi un certain nombre de zones de confort, de zones de sécurité, comme on dit aujourd'hui, et aussi des zones mortifères, des zones intérieures qui sentent le ressentiment, la jalousie, la tristesse, la haine, que sais-je. Plus nous avançons, je crois plus nous pouvons souffrir de ne pas aimer assez ou de ne pas savoir aimer. Et voilà que Marguerite Marie nous explique que moins nous aimons, plus nous regardons les autres avec dureté. Nous les regardons sans miséricorde. Nous soupçonnons même chez eux des pensées, des actes qu'ils n'ont jamais eus et qu'ils n'ont jamais commis. Et plus nous nous laissons, dit-elle, toucher par l'amour, plus nous soupirons de ne pas savoir aimer. Et plus nous devenons vrais vis-à-vis de nous-mêmes. Et plus alors nous envisageons le prochain avec joie et avec tendresse. Et j'en viens évidemment ici, dans la fin de cette deuxième partie, l'avant-dernière, c'est le courage, la patience de Marguerite Marie, c'est le soin, comment dire ça, de cette écologie du cœur qui s'appelle le silence. Silence intérieur et amour riment ensemble. Il faut les rechercher, les entretenir. Il me semble qu'ils font partie du caractère prophétique de Marguerite Marie pour notre époque si bruyante et si dispersante. Elle ne connaissait pas, grâce à Dieu pour elle, le bombardement numérique des news. Qu'est-ce qu'elle ne dirait pas aujourd'hui sur l'importance de la veille intérieure du cœur ? Notre époque rend d'autant plus pressante et salutaire l'invitation du Christ qui veulent s'approcher de lui. Entre dans ta chambre la plus retirée et verrouille la porte, c'est-à-dire ne laisse entrer à cet endroit-là ce que tu veux bien laisser entrer. À l'évêché d'Autun en ce moment, on est en train de... Merci au monument historique qui nous aide un peu de reprendre à peu près toutes les fenêtres. Parce qu'elles sont tellement vieilles que, ma foi, ce qu'on dépense en chauffage part à l'extérieur. Et donc on installe peu à peu des doubles vitrages, c'est comme on dit. Mais justement, quand c'est fermé, on ne laisse pas passer l'air extérieur. Ne pas laisser entrer en nous n'importe quelle pensée, n'importe quel sentiment. C'est un combat. Le Père est là, dit Jésus, dans cette chambre retirée. À qui est donné de goûter ce beau silence ? Je crois qu'il est donné à chacun, chacune de nous, dès lors que nous voulons que nos actes plaisent vraiment à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devenons alors comme des écrins capables de recueillir ce que Dieu donne et de ce que Dieu dit. Tenez donc toujours votre intérieur en silence, dit Marguerite Marie, parlant peu aux créatures, parlant beaucoup à Dieu, par vos œuvres. Oui, tout de suite on dit parlant beaucoup à Dieu, dans la prière, non, elle dit parlant beaucoup à Dieu par vos œuvres. Et pourtant, si quelqu'un passait des heures de prière, c'est bien elle. Hein. Souffrant et agissant pour son amour. Tenez tous vos sens intérieurs et extérieurs dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Silence intérieur par le retranchement de toutes ces pensées inutiles, toutes ces réflexions d'amour-propre, pour vous disposer à entendre la voix de l'Époux. Silence extérieur sur tout ce qui peut vous louer ou blâmer ou accuser les autres. Et ce silence sera pour honorer le silence de Jésus solitaire au Saint-Sacrement. Vous apprendrez ainsi par ce moyen à l'aimer en silence et à converser avec son Sacré-Cœur. Fin de citation de Marguerite Marie. J'en arrive à ma dernière partie si vous n'êtes pas complètement... Si vous ne dormez pas complètement, bon, c'est bien. Oui, il y a un temps entre la conférence et la messe, puisque la messe est qu'à 11h. Hein. Oui, donc après, ça laisse tout un temps personnel, si on veut. J'en arrive à ma dernière partie. Marguerite Marie est pour nous témoin, mais discrète, témoin, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu qu'on parle d'elle, c'est ça qui est... toujours particulier les saints et les saintes. Ils ne veulent pas du tout qu'on parle d'eux. Pourtant, on parle de Sainte Marguerite Marie. Témoin d'un feu divin, d'un feu qui brûle toujours et qui éclaire. Et vous voyez, je pense ici évidemment à cette grâce inouïe qui a été celle de cette union de son cœur à celui du Christ. Je crois ici utile de lever une ambiguïté possible. Oui, bien sûr, la sainteté d'un baptisé est toujours participation à l'unique sainteté de Dieu. Mais ici, il y a une ambiguïté que je voudrais lever. La sainteté n'est pas identifiée avec la vertu. La vie vertueuse est habituellement signe de sainteté, mais pas obligatoirement. Il existe des vies de sainteté qui composent avec des difficultés qui ne seront jamais surmontées ici-bas. Je tiens cette réflexion de mon évêque à Marseille, le cardinal Coffi, qui était un vrai théologien. Il parlait à des moniales bénédictines, figurez-vous, non pas simplement de la sainteté de quelques saints et saintes, mais de la sainteté de la Sainte Vierge. Et cette réflexion amène une question. Mais alors, quel est le contraire du péché? Eh bien, ce n'est pas la vertu. Mais c'est la reconnaissance de notre propre état de pécheur et l'accueil du pardon de Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance que Dieu seul est saint et peut nous sanctifier. Le contraire du péché, c'est la sainteté. Et la sainteté est le don de Dieu. Les saints et les saintes sont bel et bien de notre patte humaine, vraiment la même patte humaine que la nôtre. Leur vie peut nous paraître pourtant étrange. Je le disais pour commencer cette conférence, parfois nous nous sentons bien loin d'eux et de leurs expériences. Et pourquoi cela ? Peut-être parce que leur vie, tout comme la nôtre, est appelée à se laisser convertir sans cesse. Que les saints et les saintes avaient peut-être une conscience plus vive que la nôtre, que notre vie avait besoin d'être convertie. Se laisser convertir par un amour qui sauve, cet amour que nous pouvons ou non accueillir. Peut-être qu'aussi l'étrange distance entre les saints et nous vient que nous avons peut-être un peu fermé certaines portes en nous et que nous ne voulons pas trop les rouvrir. Ou les voir se rouvrir à l'amour. Comme si c'en était fini, vraiment, décidément, de tous nos grands oui du début de vie, comme si les choses étaient derrière nous. Alors là, effectivement, alors nous nous sentirions vraiment très loin des saints et des saintes, et ce ne serait pas forcément une bonne distance, celle-là. En fait, la seule vraie tristesse, disait Léon Blois, c'est de ne pas être des saints. Alors ça, Marguerite Marie peut-être partageait aussi avec nous cette... à certains moments, cet aiguillon d'une tristesse qu'il ne faut pas accueillir, mais parce que dès qu'on réalise à quel point nous sommes très loin encore de la vie que Dieu nous offre, eh bien, nous pouvons éprouver. Alors c'est une manière aussi de rebondir, eh bien que ce que nous pensions être une construction un petit peu déjà en place dans notre vie, au fond n'est rien du tout, ou pas grand-chose. Dans l'Évangile, nous trouvons une parole lumineuse du Seigneur pour nous entraîner à sa suite. Mettez-vous, dit-il, à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. On entendra de nouveau cette parole tout à l'heure dans l'Eucharistie. Cette parole a beaucoup marqué saint François de Sales, fondateur de l'ordre de la Visitation. On sait que François de Sales avait été canonisé quelques années, juste quelques années avant la naissance de Marguerite Marie. Il écrivait ceci à sainte Jeanne de Chantal. Écoutez bien, plusieurs années avant la naissance de Marguerite Marie. L'esprit de la Visitation, c'est un esprit de profonde humilité envers Dieu et d'une grande charité, d'une grande douceur envers le prochain. Et il ajoutait, ainsi les sœurs recevront-elles ce privilège et cette grâce incomparable de porter le nom de filles du cœur de Jésus. Plus tard, Marguerite Marie se nourrira avec bonheur de l'enseignement de François de Sales, qui est au fond l'enseignement de l'Évangile, l'école de la douceur et de l'humilité de Jésus. Et puisque trop souvent, hélas, l'évocation du Sacré-Cœur renvoie à des images doloristes et finalement faussées, citons encore saint François de Sales, « Le mérite de la croix n'est pas dans sa pesanteur, mais dans la façon de la porter. » Dans une homélie, le pape Jean-Paul II, si marqué lui-même par le mystère d'iniquité, cette violence inimaginable du mal, qui ne peut être endiguée que par la digue insubmersible de la miséricorde. Sainte Marguerite Marie, dit-il, a connu ce mystère admirable, ce mystère bouleversant de l'amour divin. Tout au long de sa vie cachée dans le Christ, elle fut marquée par le don de ce cœur qui s'offre sans limite à tous les cœurs humains. Elle était saisie tout entière par ce mystère. Toute sa vie, Sainte Marguerite Marie brûlait de la flamme vive de cet amour que le Christ est venu allumer dans l'histoire de l'homme. Fin de citation. Ces mots de Jean-Paul II ramènent notre attention sur le caractère universel de l'expérience que fait Marguerite Marie ici pour l'Église, pour le monde. C'est un don de tout l'être du Christ. Le cœur signifie la personne entière, qui est offert à tous les cœurs humains. Je reprends l'expression de Jean-Paul II. Le cœur humain aspire à connaître le pur amour et à être transformé. Tout homme, toute femme, tout enfant trouvera la joie dans le contact avec ce cœur qui a tant aimé le monde. Tous peuvent se laisser embraser par ce feu qui est le feu de Jésus glorifié, Jésus vivant. Sainte Thérèse de Lisieux n'était pas du tout fanatique de certaines images du Sacré-Cœur. Elle en parle d'ailleurs très peu du Sacré-Cœur. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs ça. Elle comprend tellement bien ce mystère, elle en parle avec des accents si réconfortants pour les êtres fragiles et, disons-le, un peu ou beaucoup cabossés que nous sommes. Par exemple, elle écrit ceci à l'abbé Bellière, le 21 juin 1897. « Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute peur. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et me parle d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour ? Et maintenant, écoutons Sainte Marguerite Marie elle-même nous dire comment fuir le découragement. Nous ne devons jamais nous décourager, ni nous laisser aller à l'inquiétude. Ah ben ça, ça parle pour les évêques, hein, c'est bien ça. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, moi ça me dit quelque chose. Hein. Ça, il ne faut pas enregistrer ça, ça n'a aucune importance. Nous ne devons jamais nous décourager, ni nous laisser envahir, aller par l'inquiétude. Ayons recours à l'adorable cœur de Jésus et disons-lui, ô mon Sauveur, soyez ma force. Combattez pour moi. Je ne refuse pas la bataille, pourvu que vous soyez ma défense. Ô Seigneur, mon cœur est à vous. Vous êtes le prix de mes victoires et le soutien inébranlable de mon infirmité. Sainte Marguerite Marie avait cette connaissance intérieure dans laquelle le cœur du Christ l'avait plongée, comme dans un vrai refuge, comme dans un port où les bateaux viennent s'abriter. Je pense ici, bien sûr, à l'admirable peinture de Rembrandt, peignant le retour du Fils prodigue, se précipitant dans les entrailles miséricordieuses de son Père. Il nous faut, dit Marguerite Marie, nous retirer dans la plaie du sacré côté, comme un pauvre voyageur qui cherche un port assuré pour se mettre à l'abri des écueils et des tempêtes de la mer rageuse de ce monde où nous sommes exposés à un continuel naufrage sans le secours de notre sage pilote divin au soin duquel il nous faut nous abandonner absolument sans vouloir nous mêler que de l'aimer et de lui plaire. Alors on le sait, je finis par là, que la fête du cœur du Christ a été instituée inséparablement, enfin j'allais dire, en relation inséparable avec le mystère de l'Eucharistie. Elle est instituée au dernier jour de l'octave de la fête du corps et du sang du Seigneur, pour nous faire reconnaître dans la fête du Sacré-Cœur, non pas une fête de la souffrance, mais une fête de l'amour. Vous savez que c'est le titre d'une encyclique ou d'une exhortation du pape Benoît XVI, le sacrement de l'amour, pour parler de l'Eucharistie. La souffrance, dit le père Pedro Arrupe, ancien responsable international des jésuites, la souffrance naît d'un manque de correspondance à l'amour de Jésus, mais par la vertu de ce même amour, elle peut être transformée en une vraie joie. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit au milieu de leur tribulation, les apôtres du Christ sont attristés mais joyeux, ils sont pauvres et ils enrichissent les autres, ils n'ont rien et ils possèdent tout. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Oui, la source de la joie, c'est bien le cœur du Christ. Cœur comme symbole de l'amour de Dieu pour nous. Symbole au sens le plus fort du mot. Voilà la source du bonheur, le moyen mystérieux de tout transformer en joie. Et c'est encore le père Arrupe qui le dit. La seule joie qui soit capable de combler entièrement le cœur de l'homme. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous.